On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info.
La fin du primaire. Comment garder mes amis? Un texte de Nathaniel Bronner, paru le 19 juin 2025 dans les As de l'info. C'est la fin de l'année. Youpi! Mais ça veut aussi dire que du changement s'en vient. Surtout si tu finis le primaire. Paul Lévesque, une éducatrice spécialisée, répond à nos questions. Paul, la fin de l'année arrive et j'ai plein d'émotions. Peux-tu m'aider à démêler tout ça? C'est normal d'avoir plein d'émotions. Tu es en transition. D'un côté, tu vis de la tristesse, tu fais un deuil. Je serais inquiète si tu ne ressentais rien. Tu dis au revoir à des gens que tu côtoies depuis longtemps. Des amis, du personnel de l'école. Tu risques aussi de changer tes habitudes. De l'autre côté, tu ressens probablement de la fébrilité. C'est comme du pétillant dans l'eau gazeuse. Tu as hâte, mais ça peut piquer la bouche. Derrière tout ça, il y a de l'inconnu. Ça peut te faire vivre de l'anxiété d'appréhension. Qu'est-ce qui va arriver? Certains de mes amis vont dans une autre école. Ça m'inquiète. Comment faire pour rester amis? Garder contact. Parfois, par peur de perdre l'ami, on choisit inconsciemment ou non d'arrêter la relation. Mais si tu as envie que cette personne reste dans ta vie, garde-la. Faites des choses ensemble, comme vous voir, vous appeler, organiser une activité. Je te donne mon truc, le sifflet. Quand mon esprit s'éloigne dans ces scénarios catastrophiques, je siffle pour le ramener à ce qui est là, maintenant. En ce moment, vous pouvez encore être amis et vous voir. Il y a plusieurs sortes d'amitié. Pour le fun, pour les confidences, pour les deux, ton ou ta baisse. Des amis que tu n'appelles pas pendant la fin de semaine, mais que tu es content de retrouver. Les personnes habituelles avec qui tu faisais des travaux d'équipe. Et des gens que tu avais simplement l'habitude de côtoyer. Qu'est-ce qui aide à se faire des nouveaux amis une fois au secondaire? Créer des opportunités. Si tu attends que quelque chose arrive, ça va être long, longtemps. Va vers l'autre. Tu peux dire bonjour, te présenter, sourire, t'inscrire au volleyball, aux échecs, etc. Par contre, c'est possible que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Sur 10 opportunités que tu crées, peut-être que seulement 3 vont marcher. Mais ça en prenait 10 pour que les 3 marchent. Est-ce que c'est une bonne idée de me réinventer au secondaire, nouvelle école, nouveau moi? Tu n'as pas à faire des efforts. Ça viendra tout seul. Un jour, tu n'aimeras plus un truc que tu aimais avant. C'est normal. Tu es dans une quête identitaire. Au secondaire, tu risques de vouloir être pareil aux autres et différent en même temps. Des fois, tu sauras ce que tu n'aimes pas, mais tu ne sauras pas ce que tu aimes. Ça va s'arranger, fais-toi confiance. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir hâte au secondaire? Plein! La plupart tiennent en un mot. Liberté. Tu pourras prendre plus de décisions. Tu auras davantage de choix d'activités parascolaires qui sont de bons endroits pour créer des amitiés. En plus, tu risques d'avoir de nouvelles permissions. Mais attention, ça vient avec plus de responsabilités. Par exemple, tu pourras peut-être te coucher plus tard, mais il faudra que tu vides ta boîte à lunch. L'un vient avec l'autre. Si tu veux plus d'autonomie, montre que tu es capable de faire ce qu'on te demande. Et toi, qu'est-ce qui te donne hâte à l'année prochaine?
Pour ou contre vandaliser des œuvres d'art pour l'environnement? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 23 juin 2025 dans les As de l'info. Le 19 juin, des militants écologistes ont lancé de la peinture rose sur une toile du peintre Pablo Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal. Dans les dernières années, d'autres militants ont vandalisé des œuvres en les aspergeant de soupe, par exemple. Pourquoi? Pour attirer l'attention sur leur cause, l'environnement. Est-ce un moyen efficace d'alerter le public sur la crise climatique? Est-ce que c'est moins grave de poser un geste illégal quand c'est pour une bonne cause? C'est le sujet de notre nouveau « Pour ou contre » soupe aux tomates, purée, peinture, farine. Ce sont des exemples de ce que des militants ont lancé sur des toiles de grands peintres comme Picasso ou Van Gogh dans des musées d'Europe dans les dernières années. Rassure-toi, aucune œuvre n'a été endommagée. Elles étaient toutes protégées par une vitre. Pourquoi ces actions choquent? Les manifestants veulent attirer l'attention sur leur cause, la lutte au changement climatique. Que penses-tu de cette stratégie, toi? C'est une bonne idée ou pas? Les pour, ça fait réagir les gens. La planète se réchauffe rapidement. C'est une crise climatique qui demande des gestes qui provoquent. Les manifestants croient qu'endommager un tableau n'est pas un scandale. Le vrai scandale, selon eux, c'est qu'on n'en fasse pas assez pour la planète. Notre planète n'a pas de prix. Les œuvres attaquées valent souvent plusieurs millions de dollars. Mais la vie, la nourriture, la justice n'ont pas de prix. Est-ce qu'on accorde plus d'importance à des objets qu'à la nature et aux humains? Ces gestes peuvent faire réfléchir et pousser certaines personnes à vouloir changer. Ça fait parler de la cause. Chacun de ces gestes a fait le tour du monde et a attiré l'attention des médias. C'est efficace pour faire parler de la cause de l'environnement. Les contres, c'est du vandalisme. Les actions choc sont du vandalisme et c'est illégal, peu importe la raison. Ça peut endommager les œuvres. Ça pourrait endommager des œuvres qui sont très précieuses et mondialement connues. En plus, l'artiste n'a rien à voir avec la cause. C'est contradictoire que des militants qui disent vouloir protéger l'environnement posent des gestes de destruction. Ça peut nuire à la cause. Ces gestes peuvent nuire à la cause environnementale en donnant une image négative du mouvement pour le climat. Et toi, es-tu pour ou contre qu'on vandalise des œuvres d'art pour la cause de l'environnement? Jérôme à vélo pour défier la maladie. Un texte de Nathaniel Bronner, paru le 23 juin 2025 dans les As de l'Info. Jérôme Hunt fait Gaspésie-Montréal. Plus de 1000 km à vélo régulièrement depuis 2016. Pourtant, il a la sclérose en plaques. C'est une maladie qui rend son exploit encore plus impressionnant. La série documentaire « En route libre » que tu peux voir sur Ami Télé raconte son histoire. On lui a parlé. « Jérôme, c'est quoi la sclérose en plaques ?» C'est comme si j'avais des petits lapins qui grugent des fils électriques dans mon cerveau. Au bout de chaque fil, il y a une lumière. S'ils grugent trop, la lumière s'allume mal ou plus du tout. Dans notre corps, ça veut dire qu'on peut avoir des difficultés à bouger, par exemple, ou à voir. Les personnes atteintes n'ont pas toutes les mêmes symptômes. Moi, j'ai des problèmes de dextérité fine. Avant, je jouais de la guitare classique, mais je ne peux plus. Je suis toujours fatigué et je perds l'équilibre régulièrement. La sclérose en plaques touche plus de 90 000 personnes au Canada, soit une personne sur 400. Mais tu parviens quand même à faire du vélo. J'ai reçu mon diagnostic en 2012. Ça m'a fait peur. J'ai arrêté tous les sports. Quand j'ai réalisé que j'arrivais à garder mon équilibre à vélo, j'ai recommencé à en faire. C'était à l'été 2016. À l'automne 2016, un ami m'a lancé le défi de venir à vélo le rejoindre à Montréal en 10 jours. J'habite en Gaspésie, à 1000 km de Montréal, mais je venais de faire 900 km en 3 mois. J'ai répondu, « D'accord, mais je vais le faire en 8 jours. » Et j'ai réussi. C'est plus important de se lancer un défi que de le réussir. Parce que si tu réussis, tu as de la fierté, mais si tu échoues, tu apprends. La prochaine fois, tu seras mieux préparé. il ne faut pas laisser nos défaites nous définir. Dans les moments plus difficiles, qu'est-ce qui te fait continuer? Je me dis que ce n'est pas parce que c'est dur là que ça va être dur demain. Le vélo occupe une grande place dans ta vie? Oui. Je travaille dans un magasin de vélos. Je fais du bénévolat dans un club de vélo de montagne avec des jeunes et j'ai besoin de faire de longues distances en vélo chaque année. Dans la série, tu dis, le défi, ça va être de rencontrer des gens. Que voulais-tu dire? Pendant mon parcours, je suis allé rencontrer des gens qui ont la même maladie que moi, la sclérose en plaques. Je suis gêné dans la vie, mais je tenais à leur dire qu'ils m'inspirent. Une fois ensemble, on s'est rendu compte que c'était réciproque. Ça m'a aidé à assumer mon côté inspirant. Parlant d'inspirer, est-ce que tu aimerais être un ambassadeur pour la sclérose en plaques? Oui, mais d'après moi, on ne demande pas pour être ambassadeur. On le devient par ce qu'on est et ce qu'on fait. Je tiens à montrer que oui, la maladie est un défi, mais t'es capable de vivre. Tu peux voir Jérôme dans « En route libre » sur Ami Télé les lundis à 20h. Si tu manques un épisode, pas de panique, la série est en rattrapage gratuitement sur le site Internet Ami Plus. Connais-tu des gens qui sont capables de faire de grandes choses malgré la maladie ou un handicap? Deuxième arrêt, Terre-Neuve. Un texte de Lisbeth Sornet, paru le 16 juin 2025 dans les As de l'Info. Lisbeth Sornet est journaliste. Elle s'est lancée dans un grand voyage en solo à travers le Canada. Sur sa route, elle rencontre des jeunes de ton âge et elle va visiter leur lieu coup de cœur. Suis-la tous les dimanches dans sa quête. Il y a deux semaines, en quittant le Labrador, je suis passé par la ville québécoise de Blanc-Sablon pour prendre le traversier vers Terre-Neuve. Ensuite, j'ai longé la côte pour me rendre à l'école Notre-Dame-du-Cap située à Cap-Saint-Georges. J'y ai rencontré Brody Talak. Il a 12 ans. Ses parents ne sont pas parfaitement bilingues, mais pour eux, c'était important que Brody apprenne les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais. Son endroit préféré? Brody aime beaucoup le quai, au cœur de son village. C'est un endroit où il va pêcher avec ses amis. Un matin, je me suis donc levé très tôt pour rencontrer les pêcheurs. Il était 4 heures du matin. Il ventait, il pleuvait et il faisait froid. J'ai vu les pêcheurs se préparer et mettre leur bateau à l'eau. La directrice de l'école, Josette Bourque, m'avait dit qu'il n'y a presque plus que les grands-parents qui pêchent. Cap-Saint-Georges vit de l'industrie de la pêche, mais les parents des élèves délaissent ce métier. Les papas vont souvent travailler à l'extérieur, comme en Alberta. Résultat, le dernier recensement indiquait qu'il y avait 800 habitants à Cap-Saint-Georges, mais maintenant, la directrice croit qu'ils sont moins de 300 à vivre dans le village. Savais-tu que Terre-Neuve est la 4e plus grande île au Canada et la 15e dans le monde? Après Cap-Saint-Georges, direction la capitale. Je suis ensuite arrivé dans la capitale de Terre-Neuve et Labrador, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'est une ville située à l'extrémité sud-est de l'île de Terre-Neuve. Accompagné de Flore et de sa directrice, j'ai visité son école, Rocher du Nord. Flore Cyr a 13 ans et elle est en 7e année. L'école de Flore offre beaucoup d'activités. Nous, ici, on apprend le ukulélé et lorsque tu deviens plus vieux, tu peux apprendre la guitare, me confie-t-elle. Il y a également une salle de spectacle et une salle de couture. Les élèves apprennent comment fabriquer leur propre sac à dos et l'utilisent pour une randonnée. Son endroit préféré? Il s'appelle le Quidividi Village. Et c'est un des plus anciens villages de pêcheurs à Terre-Neuve. Flore y va pour les sentiers et les falaises escarpées. Terre-Neuve est le meilleur endroit au Canada pour observer les gros blocs de glace. Ils ont toutes sortes de formes et certains ressemblent à une île tellement ils sont immenses. J'ai ensuite pu visiter la deuxième école francophone de Saint-Jean de Terre-Neuve. Il s'agit de l'école de Xavier d'Embassar-Vallée, l'école des grands vents. Xavier est en quatrième année. Au moment de ma visite, lui et les autres élèves préparaient un projet qu'ils devront d'abord présenter en anglais, puis en français. Bien que son école soit francophone, il est important pour les élèves de bien maîtriser des matières en anglais, comme les mathématiques et la lecture. À son école, il apprend aussi la gigue traditionnelle de plusieurs autres pays. Son endroit préféré? The Room. Il s'agit d'un musée au cœur de la ville. Je suis donc allé visiter le musée en compagnie d'un des employés. En haut d'un escalier, il y a une section de création où les enfants peuvent construire toutes sortes de choses selon leur imagination avec des blocs de construction. Selon l'employé, l'autre endroit favori, c'est la salle de naturalisation où on conserve des spécimens d'animaux de la région. Il y a même un calamar géant de 8 mètres de long. Il a été retrouvé échoué sur la plage de Hare Bay en 1981. C'est un animal qui vit dans le fond des mers et très peu de personnes en ont observé des vivants. Savais-tu que c'est à Terre-Neuve que se trouve le point le plus à l'est de l'Amérique du Nord? Il s'agit de Cap Spear, un ancien point d'observation durant la Seconde Guerre mondiale. La semaine suivante, Lisbeth est allée visiter la Nouvelle-Écosse. Troisième arrêt, la Nouvelle-Écosse. Un texte de Lisbeth Cernay, paru le 22 juin 2025 dans les As de l'Info. Lisbeth Cernay est journaliste. Elle s'est lancée dans un grand voyage en solo à travers le Canada. Sur sa route, elle rencontre des jeunes de ton âge et elle va visiter leur lieu coup de cœur. Suis-la tous les dimanches dans sa quête. En quittant l'île de Terre-Neuve, j'ai pris le traversier de nuit vers la Nouvelle-Écosse. Je suis arrivé au port de Sydney très tôt, le matin. Tout de suite, je me suis dirigé vers l'école Étoile de l'Acadie. J'avais rendez-vous avec Silas Rose Sainte-Marie, 9 ans. À mon arrivée, la première cloche sonne. Chaque matin, tous les élèves se lèvent en silence pour écouter le Haut-Canada, l'hymne national du pays, diffusé dans les haut-parleurs de l'école. Silas est en quatrième année. Son papa est francophone et sa maman est anglophone. Il a 4 grandes sœurs. Son endroit préféré, c'est la cour d'école. Silas, c'est un garçon qui aime bouger. C'est un traceur, c'est-à-dire qu'il pratique le parkour, un sport qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible en sautant sur des obstacles. Savais-tu que la Nouvelle-Écosse est constituée d'une péninsule et d'une île? Une péninsule, ou presqu'île, c'est une île qui est attachée au continent par un bout de terre. En route vers Halifax, la capitale. Après avoir quitté Silas, j'ai continué mon chemin vers Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. Mais avant, je me suis arrêté à l'école Beauport à Arusha, une petite ville côtière. Une fois arrivé, surprise! 4 élèves s'étaient portés volontaires pour me faire visiter leur établissement. Jackson Forgeron, Réal Boudreau, Clara Sampson et Émilie David. Ils et elles ont entre 10 et 11 ans et sont en 5e année. Durant la visite, les élèves m'ont montré une grande fresque dans le couloir principal. Chaque élève de l'école a eu l'occasion de participer à sa création. Leur endroit préféré? Une de leurs plages. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que l'été, l'eau devient chaude et qu'il y a peu de roches. Les jeunes sont fiers de leur identité acadienne. Émilie fut la première à me le dire. Clara précise que pour elle, apprendre le français est une façon de préserver sa culture. C'est également le cas pour Jackson, qui, en apprenant le français, veut respecter la culture de sa maman. La semaine prochaine, Lisberte nous fait visiter le Nouveau-Brunswick. Il est une fois les ados qui ont créé un journal. Un texte de Frédéric Lavoie paru le 20 juin 2025 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, des ados qui ont fondé leur propre journal pour ne pas s'ennuyer durant l'été. Ils ont aussi pris une autre décision importante. Ce journal ne serait pas diffusé sur Internet. Il serait imprimé sur du papier. Pour lire ses articles, il faudrait ranger son téléphone, aller chercher un exemplaire au dépanneur, puis se laisser absorber par les mots et les images aux odeurs d'encre et de papier. Mais les trois amis savaient que, pour transformer ce rêve en réalité, il fallait aussi faire un peu de mathématiques, car publier un journal coûte de l'argent et doit aussi en rapporter. Tout a commencé quand Billy, Teddy et Ellis avaient 14 ans et étaient sur le point de terminer leur année scolaire. Ils étaient tous à la recherche d'un emploi d'été et Billy ne voulait surtout pas retourner presser des citrons dans un casse-croûte comme l'année précédente. Un jour, ils ont discuté avec le père d'Ellis, propriétaire du journal du coin. Le papa leur a expliqué comment fonctionne un journal et quel est le rôle des journalistes. Rencontrer des gens, aller sur le terrain, raconter ce qui se passe dans leur communauté, et tout cela en cherchant à être le plus précis et le plus juste et honnête envers toutes les personnes impliquées. « Wow !» se sont dit les trois amis. « Trop cool !» Billy, Teddy et Ellis étaient trop jeunes pour travailler au journal du père d'Ellis. Ils ont donc décidé de créer leur propre journal. Un journal qui pourrait être lu par tout le monde, adulte ou ado, mais qui serait écrit et géré seulement par des jeunes. Ils ont appelé un imprimeur pour connaître le coût d'impression d'un journal, dépense. Ils se sont informés sur l'argent qu'ils pourraient gagner en incluant des publicités pour des commerces, revenus. Ils ont ensuite déterminé combien leur journaliste serait payé pour chaque article, dépense. L'équilibre entre les dépenses et les revenus semblait bon. Ils ont trouvé un local, recruté d'autres ados pour se joindre à leur équipe et ont cherché un nom pour leur journal hebdomadaire, c'est-à-dire qui paraît une fois par semaine. Pourquoi ne pas rendre hommage à ce fossé dans le sable où ils aiment se retrouver ensemble? Vive le fossé hebdo! Puis, ils se sont mis au travail. Les responsables de la publicité sont allés solliciter les propriétaires de commerce. Et les reporters sont partis sur le terrain. Teddy s'est rendu dans deux restos pour comparer le goût de leurs crêpes. Billy est allé interviewer le propriétaire d'une boutique de surf. Ellis s'est chargé de faire un résumé des crimes commis dans le secteur durant la semaine. Des adultes leur ont appris à manier les logiciels pour mettre en page un journal. Mais sinon, ils ont seulement eu de l'aide de leurs parents pour les conduire en voiture jusqu'au lieu de leur reportage. Dès son premier numéro, le Fossé Hebdo a connu du succès, si bien que l'équipe a publié 9 autres numéros au cours de l'été. Durant l'année scolaire qui a suivi, Billy, Teddy, Ellis et tous les autres jeunes impliqués ne pouvaient arrêter de penser à leur journal. Non seulement ils avaient gagné de l'argent, Teddy avait même pu s'acheter un vélo électrique. Mais ils avaient aussi beaucoup appris sur leur communauté et sur le métier de journaliste. L'été suivant, à peine la cloche des vacances avait-elle sonné que l'équipe du Fossé Hebdo était déjà sur le terrain pour produire un nouveau numéro. Cette histoire est bien vraie. The Ditch Weekly, le Fossé Hebdo en français, a été lancé à l'été 2024 à Montauk, une région très touristique près de la ville de New York aux États-Unis. Ces 10 premiers numéros ont été très appréciés par la population locale. Pour son deuxième été d'existence, 20 ados font partie de l'équipe et le nombre d'exemplaires imprimés de chaque numéro est passé de 800 exemplaires à 2000. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.